Hélène Sandrani est présidente du département, du conseil départemental de l'Aude. Avant d'attaquer le vif du sujet, peut-être rassurer quand même nos auditeurs. Vous avez eu dans vos locaux, il n'y a pas très longtemps, un incendie. Bon, ça s'est pas trop mal terminé?
Non, ce sont des dégâts...
Limités.
Enfin, c'est matériel, je vais dire, limité, oui, bien sûr, mais qui quand même oblige à la non-occupation d'une partie des bâtiments du département pendant 15 jours.
Oui, c'est quand donc, même un handicap dans le fonctionnement.
C'est un handicap, mais ce sont des dégâts matériels.
Pas de dégâts humains.
Non, nous avons deux ou trois personnes qui ont été un peu... on va dire malmené par les fumées, grave, mais
enfin une grosse frayeur,
voilà,
plus de peur de,
oui,
que de mal,
je comme, pense plus de peur que de mal, comme effectivement dit, bon, après le reste,
oui, ouais, bon, alors revenons-en donc à l'action du conseil départemental. Vous avez évoqué lors d'une conférence de presse récemment un certain nombre d'axes ou de programmes, de projets. Dites-nous quel est le mot qui convient et surtout apportez-nous un descriptif de ces grands projets.
Oui. J'ai effectivement évoqué l'année à venir et la densité, l'intensité que cette année va revêtir, puisque nous allons, entre 2023 et 2024, élaborer, sortir, présenter au public et mettre en œuvre pas loin de 11 schémas qui déroulent nos actions sur des thématiques bien précises. C'est beaucoup.
Hein, oui, bon, voilà. 11 d'un coup.
Oui, 11 sur une année, c'est beaucoup. Hein.
Et les moyens suivront-ils? Parce que c'est la question que vous vous posez.
Ah, ben c'est la question que je me pose, oui. Et c'est tout l'enjeu de l'élaboration du budget qui vient dans le contexte que nous connaissons. Donc ces schémas, ils sont nombreux. Je ne vais pas pouvoir tous vous les citer, mais...
On en gardera pour d'autres prochaines.
Voilà, vous en garderez pour d'autres fois. Ils correspondent à des thématiques ou à des sujets qui sont extrêmement importants pour le département. Bon, pour prendre le premier d'entre eux, celui de la transition écologique, hein, nous avons un département qui est victime de transformations et de dérèglements climatiques importants. Et nous avons, nous, par exemple, département, la compétence sur ce qu'on appelle les espaces naturels sensibles. Hein. Bon, les espaces naturels sensibles, en plus le département, c'est un département riche un espace naturel sensible, puisque 40% de notre territoire correspond à un espace naturel sensible.
Ah oui, bon.
C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Et c'est quoi? En fait, c'est un lieu où la biodiversité s'épanouit, si vous voulez. Et donc, c'est lieu où il y a de la faune, où il y a de la flore qui contribue à alimenter le vivant, hein. Il faut les protéger. Donc, nous achetons des terres, nous entretenons, nous avons des actions très fortes et cette année verra la sortie, si je peux me permettre cette expression, ou du moins le renouvellement de notre stratégie de préservation de la biodiversité.
Ah oui, alors le département est un propriétaire terrien important.
Oui. Alors, nous n'avons pas 40% du territoire concerné, mais pour vous donner une idée, il y a sur le département 220 sites dits d'intérêt naturaliste, et nous en avons, sur ces 220, nous en avons 17. Nous avons des espaces comme ça dans la nature que nous préservons, pour lesquels nous avons une action très forte de résorption des friches, comme je viens de le dire, ou voire même, ce qui est une action particulièrement importante, la restauration de ce qu'on appelle les zones humides.
Oui, par exemple.
Par exemple.
Que quand on parle de préserver, souvent on sous-entend qu'il y a danger. Alors, c'est pas forcément toujours le cas dans ces espèces naturelles.
Il n'y a pas toujours danger, mais il y a nécessité d'engager des actions de préservation. Mmh. Le danger n'est peut-être pas là, mais il est pas loin. Hein. Mmh. On sait que vis-à-vis notamment des zones humides, si on n'intervient pas, si on n'a pas des politiques volontaristes qui consistent à les entretenir, ces zones humides, eh bien, elles disparaissent. Mmh. Elles disparaissent sous la végétation et elles ne jouent plus le rôle fondamental qu'elle joue notamment sur l'eau et la préservation de l'eau sur les territoires, mmh. par exemple.
Alors, puisque vous évoquez le sujet de l'eau, Hélène Sandranier, justement, on le sait, bon, alors, transition écologique, mais en plus, sécheresse, un département agricole qui a été particulièrement touché par la sécheresse cet été avec les départements voisins, et de plus en plus d'agriculteurs, notamment de viticulteurs, mais pas seulement, disent l'avenir, ça sera les sécheresses, et on a besoin de revoir, enfin, ou d'aménager notre territoire, notamment pour la conservation de l'eau. Sous-entendu, il faut faire davantage de barrages ou de retenues ou de choses comme ça. Alors, le département, c'est peut-être pas la tâche fondamentale d'un département, mais forcément, vous êtes concernés.
Ah ben ça, c'est forcément, nous sommes concernés. Nous sommes concernés parce que je dis toujours, dans ce territoire, dans ce département, il y a deux économies essentielles, l'agriculture et le tourisme. Donc, on comprend très vite la nécessité qu'il y a à soutenir ces deux économies. Mmh. Et dans l'agriculture, bien 80% de cette agriculture, c'est la viticulture.
Voilà. Or, cette viticulture, jadis se contentait relativement de peu d'eau, semble souffrir de la sécheresse, et beaucoup réclament aujourd'hui l'aménagement de ce qu'ils appellent des retenues collinaires ou des choses comme ça.
Oui, il y a sur la table la possibilité de construire des retenues collinaires. Hein. On est bien clair, hein. Il ne s'agit pas d'aller chercher de l'eau dans la nappe phréatique.
Il s'agit de collecter l'eau qui tombe du ciel.
Il s'agit de collecter effectivement l'eau quand elle tombe en excès. Donc ça, c'est une solution parmi d'autres. Nos viticulteurs aujourd'hui sont dans une situation extrêmement grave, qui met en péril leur exploitation, et nous devons les aider à franchir ce qui n'est plus... Jusqu'à présent, on avait des crises. Alors, on avait le gel, oui. On répondait à des crises ponctuelles.
Tandis que là, il semble que...
Là, il va falloir...
Se structurer.
Il va falloir les aider à transformer. Bon, l'eau est un élément essentiel. Bon, on vient de parler d'une façon de faire. Bon, moi, je crois qu'il faut aussi penser à aussi d'autres dispositifs autour notamment du recyclage des eaux usées.
Des eaux usées, par exemple, des stations d'épuration.
Des stations d'épuration, il y a beaucoup de choses à faire. Les viticulteurs, eux aussi, sont engagés dans des transformations de pratiques effectivement, les cèpes, enfin
les cépages qui résistent mieux à la sécheresse, par exemple.
Et puis, il va falloir également aller chercher l'aide de l'État pour nous aider à ces transformations dans notre paysage et voir comment on peut justement aider ces viticulteurs à adapter leur exploitation aux défis qui sont devant nous.
Oui, mais je prends un exemple très concret. Dans le Lauragais, on a réussi à faire un barrage qui s'appelle la Ganguise avec une énorme retenue d'eau. Est-ce qu'on peut imaginer des choses comme ça plus à l'aise dans le département ?
Moi, je ne le pense pas.
De par la configuration la pluviométrie.
Je ne le pense pas. Je pense qu'il ne faut pas aujourd'hui rechercher des barrages ou des structures de ce type. Hein. Ce n'est pas, à mes yeux, quelque chose qui est envisageable. C'est davantage, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, des retenues...
Plus modestes, alors.
Plus modestes.
Et plus nombreuses.
Plus nombreuses, effectivement. C'est une des solutions qu'il faut explorer assez vite parce que on en parle quand depuis un moment et maintenant on est rattrapé et les viticulteurs sont là d'attendre, et on peut le comprendre. J'étais dernièrement à Portel, je suis allée visiter des exploitations qui sont au bord des vignerons qui sont au bord du désespoir, parce que les vignes ne produisent plus, quoi. Donc, oui, eux, ils ont des efforts à faire, et nous devons les aider dans ces efforts, et ça passe effectivement par des dispositifs comme les retenues bassinaires. Non exclusivement.
Hein, oui, voilà. Oui, mais ça en fait partie, c'est la façon d'avoir de l'eau et de d'éviter
qu'il y ait... On sait bien que ce qui est connu aujourd'hui, c'est que certes, nous avons des périodes de sécheresse, mais que l'eau, la quantité d'eau qui va tomber va être la même, sauf qu'elle ne va pas tomber aux bonnes périodes. Or, on sait bien que la vigne a besoin d'eau à certains moments et pas à d'autres. Hein, parce que la vigne, c'est une plante, une végétation qui est capable de résister, hein, et qui est capable d'aller chercher très loin
très profond de
l'eau. Hein. Mais cette eau qui arrivera de façon violente et pas au besoin, au moment du besoin, il faut pouvoir... la récupérer.
Donc on peut imaginer dans les années qui viennent un département avec un certain nombre de ces fameuses petites retenues
pour pouvoir l'appuiser
au moment où...
Je pense qu'on peut envisager ça.
Oui,
du moins, c'est ma vision. Pas la seule, vous l'avez compris, hein. C'est pas le seul dispositif, mais ça c'est comme quand on est confronté à des problèmes immenses. C'est qu'il ne peut pas y avoir... une seule réponse au problème. Ça n'est une, et il faut pouvoir y aller, quoi.
Oui. À propos d'agriculture, alors bien sûr, c'est pas le problème du département non plus, mais l'organisme ATMO a révélé récemment, dans une étude sur le glyphosate, une présence de ce fameux glyphosate dont on parle et pour lequel il est question de le supprimer, mais ça ne vient pas. Et apparemment, les départements viticoles sembleraient assez touchés par les présences dans l'air de glyphosate. Alors, c'est pas évidemment le côté sanitaire. Est-ce que le département a quelque chose qu'il puisse faire?
Ben, j'ai envie de vous dire que le département, il a déjà fait, il continuera à faire. Quoi? Il aide les viticulteurs dans leur transformation de pratique. Tout à l'heure, on en parlait.
Donc, à utiliser moins ces pesticides.
Ben, oui, on a déjà, il y a 3 ans de cela, permis aux viticulteurs d'accéder à un dispositif qu'on appelle la confusion sexuelle, hein, qui consistait effectivement à mettre un dispositif non agressif à disposition.
Voilà, pour éviter une reproduction massive.
Et nous, alors c'est vrai qu'on n'a pas la compétence agri, mais on peut justement, dans le cadre de l'accompagnement et dans le cadre de la transformation des pratiques, mettre en œuvre ce type de dispositif qui peut aider les viticulteurs. Là, on est présent.
Oui, voilà. Voilà, ce sont des exemples d'actions sur lesquelles
on peut aller.
Hors compétences obligatoires.
C'est ça, mais... sur lesquelles on peut aller. Et dans le futur schéma, puisque ça n'est la stratégie agricole que nous sortirons, je pense, à la fin de l'année, effectivement, eh bien, cette stratégie... reprendra nos propositions dans le cadre de l'accompagnement de l'agriculture audoise.
Oui. Un tout dernier mot pour cette seconde partie. Le salon de l'agriculture, vous y retournerez?
Ah ben oui, ça a été un franc succès, donc on recommence, hein, quand on est content et quand on satisfait effectivement les agriculteurs. Il n'y a aucune raison que nous ne recommencions pas cet événement notre présence à cet événement et bien sûr un stand au doigt pour porter haut l'agriculture au doigt.
Voilà, donc comme on dit, save the date, il faut réserver la date pour l'avenir. On marque une seconde pause, Hélène Sandranier, et on revient sur une troisième partie, alors peut-être un petit peu plus politique, parce que rappelons que lorsqu'on est élu aussi, parfois, on fait un petit peu de politique. À tout de suite.
Oui.